Chapitre 44. La mort n'est pas, je viens de m'en apercevoir, une expérience agréable. Quitter l'appartement familier de la Piazza di Spagna et le corps qui y refroidit rapidement est une expérience analogue à celle qui consiste à être chassé dans la nuit, hors de la chaleur familière de sa maison, par l'incendie ou l'inondation. Le choc du dépaysement est sévère. Précipité la tête la première dans la métasphère, j'éprouve le même sentiment de honte et de révélation soudaine et embarrassante que dans le rêve que nous avons tous fait un jour d'avoir oublié de s'habiller et d'être sortis tout nus dans la rue ou dans un endroit où il y avait du monde. Tout nu. C'est bien l'expression qui me convient en ce moment tandis que je m'efforce de maintenir l'intégrité de ma personnalité analogique déchirée. Il faut que je me concentre suffisamment pour donner aux nuages électroniques presque aléatoires de souvenirs et d'associations qui caractérisent cette personnalité la forme d'un simulacre acceptable de l'être humain que j'ai été, ou du moins de l'être humain dont j'ai partagé les pensées. Mr. John Keats, haut de 5 pieds. La métasphère n'est pas moins effrayante qu'avant. Un peu plus, au contraire, maintenant que je n'ai plus d'abri humain où me réfugier. De vastes ombres se déplacent derrière des horizons noirs. Des bruits résonnent dans l'espace qui lie, comme des pas sur les dalles d'un château abandonné. Sous tout cela et derrière tout cela, il y a une rumeur continuelle et exaspérante, semblable à celle que produiraient les roues d'un chariot sur une chaussée pavée d'ardoise. Pauvre Hunt. Je suis tenté de retourner à ses côtés, surgissant comme le fantôme de Marley pour le rassurer sur mon état réel. Mais l'ancienne terre est pour moi un endroit trop dangereux. La présence du Gritch brûle dans l'infoplan de la métasphère comme une flamme sur un fond de velours noir. Le centre m'appelle avec une force encore plus grande, mais le danger n'est pas moindre. Je n'ai pas oublié la manière dont Humon a détruit l'autre Keats devant Brown Lamia, en serrant contre lui la personnalité analogique jusqu'à ce qu'elle se dissolve purement et simplement et que sa mémoire de base se ratatine comme une limace trempée dans le sel. Très peu pour moi. J'ai choisi la mort plutôt que la divinité, mais j'ai des choses à accomplir avant de m'endormir du dernier sommeil. La métasphère me fait peur. Le centre me fait peur. Les noirs tunnels des singularités de l'infosphère que je dois traverser me terrifient jusqu'aux analogues de mes os. Mais il n'y a rien à faire. J'entre dans le premier cône noir en tourbillonnant comme une feuille métaphorique dans un maelstrom qui, lui, n'est que trop réel. J'émerge dans l'infoplan voulu, mais j'ai la tête qui tourne et je suis trop désorienté pour faire autre chose que rester là, à la vue de n'importe quel IA du centre qui voudrait accéder aux ganglions de mémoire morte ou aux routines de phages résidant dans les crevasses mauves de toutes ces chaînes de montagnes de données. Mais c'est précisément le chaos du technocentre qui me sauve ici. Les personnalités importantes du centre sont trop occupées à faire le siège de leur cité de trois personnels pour prêter attention à ce qui se passe dans la cour de derrière de leur propre maison. Je trouve les codes d'accès à l'infosphère que je voulais et les cordons synaptiques dont j'avais besoin. C'est l'affaire d'une microseconde que de suivre les anciens chemins qui mènent à Tossetti Central, à la maison du gouvernement, à l'hôpital et aux rêves induits par les drogues de Paul Duré. Une chose que ma personnalité sait faire particulièrement bien, c'est rêver. Je découvre, tout à fait par hasard, que les souvenirs de mon voyage en Écosse représentent un cadre approprié pour convaincre le prêtre de prendre la fuite. En ma qualité de libre penseur britannique, j'étais jadis opposé à tout ce qui évoquait, de près ou de loin, l'Église papale. Mais il faut dire une chose en faveur des jésuites. On leur enseigne l'obéissance avant la logique, et, pour une fois, cela rend service à l'humanité tout entière. Duré ne me demande pas pourquoi lorsque je lui dis où il faut qu'il aille. Il se réveille comme un gentil petit garçon, il s'enveloppe dans une couverture et il y va. Mayna Gladstone me prend pour Joseph Severn, mais elle accepte mon message comme si c'était Dieu qui le lui avait communiqué. Je voudrais la détromper, lui dire que je ne suis pas celui-là, que je ne suis que celui qui précède. Mais le message est la chose, aussi je me contente de transmettre et de me retirer. En passant par le technocentre sur le chemin de la métasphère d'Hyperion, je capte l'odeur de métal brûlé de la guerre civile, et j'aperçois une grande lumière qui pourrait être Humon en train de subir une procédure d'extinction. Le vieux maître, si c'est bien lui, ne récite pas de Koan au moment de sa mort, mais hurle de douleur aussi sincèrement que n'importe quelle entité consciente que l'on s'apprête à envoyer au four crématoire. Je me dépêche. La connexion d'Istrance avec Hyperion est pour le moins ténue. Une seule porte, militaire, et un seul vaisseau portier, endommagé, dans un espace qui ne cesse de se rétrécir et qui est encombré de carcasses de bâtiments de guerre de l'hégémonie. La sphère de confinement de la singularité ne peut maintenant être protégée des attaques des extros durant plus de quelques minutes. Le vaisseau torche de l'hégémonie, qui transporte à son bord le super bâton de la mort du technocentre, se prépare à se distranslater dans le système au moment même où j'émerge, cherchant à m'orienter dans les niveaux limités de l'infosphère qui peuvent servir de poste d'observation. Je m'installe tranquillement pour attendre la suite.
« Seigneur, » annonça Melio Arundez, « Mayna Gladstone est en train d'émettre une salve super prioritaire. »
Théo Lane le rejoignit devant la fosse holo pour contempler les données prioritaires qui formaient un cylindre de brume. Le consul descendit de la cabine où il s'était retiré par l'escalier de métal en spirale.
« Pas de message de TC carré ? »
demande-t-il sèchement.
« Pas de message qui nous soit spécifiquement adressé. »
lui dit Théo en lisant les codes rouges qui se dissolvaient aussitôt après s'être formés.
Il s'agit d'une méga-transmission prioritaire qui s'adresse à tout le monde, partout.
Arundez s'enfonça un peu plus dans les coussins qui entouraient la fosse.
« Ce n'est pas normal, » dit-il. « Est-ce qu'il est déjà arrivé à la présidente de diffuser un message toute fréquence sur bande large ?»«
Jamais, » fit Théo Lane.
« L'énergie nécessaire pour coder une telle salve serait monstrueuse. »
Le consul se rapprocha des codes en train d'apparaître et de disparaître pour les montrer du doigt.
« Il ne s'agit pas d'une salve, » dit-il. « Regardez bien. C'est une transmission en temps réel. »
Théo secoua la tête.
« La puissance d'une telle transmission équivaudrait à plusieurs centaines de millions de gigaélectronvolts. »
Arundez émit un sifflement.
« Même s'il ne s'agissait que de 100 millions de GEV, il faudrait que la teneur du message soit exceptionnelle.
Une reddition générale ? »
murmura Théo.
C'est la seule chose qui puisse justifier une diffusion générale en temps réel.
En même temps qu'au monde du Retz, Gladstone s'adresse à ceux des confins, aux extros et à toutes les planètes qu'ils occupent. Toutes les fréquences com doivent porter le message à l'heure qu'il est. Même la TVHD et les canaux de l'infosphère doivent le recevoir. Il ne peut s'agir que d'une reddition.
Taisez-vous !
Fit le consul d'une voix rendue pâteuse par l'alcool. Il s'était mis à boire dès que le tribunal l'avait laissé repartir, et son humeur, qui avait été massacrante même lorsque Théo et Arundez lui avaient donné de grandes tapes dans le dos pour célébrer sa survie, ne s'était guère améliorée après le décollage, lorsqu'ils avaient reçu l'autorisation de s'éloigner de l'essaim, ni durant les 2 heures qu'il avait passées seul à se saouler tandis que le vaisseau accélérait sa course vers Hyperion.
« Mayna Gladstone ne se rendra jamais, »
bredouilla-t-il, la bouteille de scotch encore à la main.
« Vous n'avez qu'à regarder, et vous verrez bien. »
À bord du vaisseau torche Stephen Hawking, 23e bâtiment spatial de l'hégémonie à porter le nom de l'illustre savant, le général Arthur Morpurgo leva les yeux de son tableau C3, et fit taire les 2 officiers du poste. En temps normal, un vaisseau torche de cette classe emportait un équipage de 75 personnes. Aujourd'hui, avec le bâton de la mort du technocentre dans ses soutes, le bâtiment n'était occupé que par 5 volontaires, dont Morpurgo lui-même.
Les écrans et les voix discrètes des ordinateurs annonçaient que le Stephen Hawking était bien sur la trajectoire prévue, dans les limites de temps prévues, et qu'il accélérait normalement sa course, à des vitesses quasi quantiques, en direction de la porte distance militaire du point 3 Lagrange, située entre Madieu et son énorme lune. La porte de Madieu donnait directement sur celle, âprement défendue, du système d'Hyperion.
Objectif de translation à 1 minute 18 secondes, annonça le jeune officier Salomon Morpurgo, le fils du général.
Ce dernier hocha la tête et verrouilla le système de transmission sur large bande. Les projections du poste de commandement étant saturées de données spécifiques à la mission, il régla la transmission de la présidente sur mode audio seul. Malgré lui, un sourire apparut sur ses lèvres. Que dirait Meina si elle savait qu'il était à la barre du Stephen Hawking? Mieux valait qu'elle l'ignore. Pour sa part, il avait fait tout ce qu'il pouvait. Et il aimait autant ne pas voir le résultat des ordres précis écrits de sa propre main qu'il avait distribués au cours des deux dernières heures. Il regarda son fils aîné avec un sentiment de fierté si aigu qu'il confinait à la douleur. Le nombre d'hommes et de femmes qualifiés pour faire partie de l'équipage d'un vaisseau torche qu'il avait pu contacter pour cette mission était limité. Et son fils avait été le premier volontaire. Cet enthousiasme de la famille Morpurgo aurait dû suffire à apaiser d'éventuels soupçons du technocentre.
« Mes chers concitoyens, » déclara Gladstone, « ceci est le dernier message que je vous adresse en tant que chef du pouvoir exécutif. Comme vous le savez, la responsabilité de la terrible guerre qui a déjà dévasté 3 planètes et menace actuellement une 4e, a été attribuée aux essaims extro. Mais il s'agissait d'un mensonge.
Les canaux de communication se mirent subitement à rugir sous les interférences, puis se turent complètement.
« Passez en méga-trans !»
ordonna le général Morpurgo.
« Point de distranslation à 1 minute 3 secondes !» annonça son fils.
La voix de Gladstone revint, filtrée et légèrement déformée par le cryptage et le décryptage Mégatrans.
Nous rendre compte que nos ancêtres et nous-mêmes avions signé un pacte faustien avec des puissances que le sort de l'humanité indiffère totalement. C'est le technocentre qui est responsable de l'invasion actuelle. C'est à lui que nous devons la longue période de ténèbres rassurantes que nous venons de traverser. C'est lui qui s'est fixé pour objectif la destruction de l'humanité et son remplacement dans l'univers par un dieu mécanique de sa propre conception.
Salomon Morpurgo ne quittait pas des yeux ses rangées d'instruments.
Point de distranslation à 38 secondes.
Morpurgo hocha la tête. Les deux autres membres de l'équipage qui se trouvaient au poste C3 avaient la figure luisante de transpiration. Le général se rendit compte que son propre visage était mouillé aussi.
« On prouvait que le technocentre réside et qu'il a toujours résidé dans les espaces obscurs situés entre les portes d'Istrans. Il se croit maître de nos destinées. Tant que le Reds existe, tant que la cohésion de notre bien-aimée hégémonie repose sur ces liaisons d'Istrans, le technocentre a raison. Il est notre maître. »
Morpurgo jeta un coup d'œil à son chronomètre de mission. 28 secondes. La translation vers le système d'Hyperion serait, pour les sens limités des humains, instantanée. Le général était certain que le bâton de la mort était réglé pour s'activer automatiquement dès qu'il pénétrerait dans l'espace d'Hyperion. L'onde de mort mettrait moins de 2 secondes pour toucher la surface de la planète. Elle atteindrait les éléments les plus éloignés de l'essaim extro en moins de 10 minutes.
C'est pourquoi,
poursuivit Meina Gladstone d'une voix qui trahissait son émotion pour la première fois.
En ma qualité de présidente du Sénat de l'hégémonie humaine, j'ai ordonné à notre force spatiale de procéder à la destruction de toutes les sphères de confinement de singularité et de toutes les portes d'Istrans actuellement en service à notre connaissance. Cette destruction ou cautérisation
commencera dans 10 secondes. Que Dieu sauve l'hégémonie. Que Dieu nous pardonne à tous.
Salomon Morpurgo annonça tranquillement.
Translation dans 5 secondes.
Le général regarda son fils, de l'autre côté du poste de commandement, dans les yeux. Les projections derrière le jeune officier montraient la porte qui grossissait, grossissait autour d'eux.
« Je t'aime »,
murmura le général. 263 sphères de confinement de singularité, reliant plus de 72 millions de portes distance, furent détruites à des intervalles n'excédant pas 2,6 secondes l'une de l'autre. Les unités de la flotte déployées par Morpurgo, conformément aux ordres présidentiels, décachetèrent leurs enveloppes moins de 3 minutes avant l'exécution et, réagissant avec leur discipline et leur célérité habituelle, détruisirent les fragiles sphères au moyen de missiles, de rayons laser et d'explosifs au plasma. 3 secondes plus tard, alors que les nuages de débris étaient encore en expansion, des centaines de vaisseaux spatiaux de la Force impliqués dans l'opération se retrouvèrent isolés, séparés les uns des autres et séparés des systèmes voisins par des semaines, voire des mois de propulsion Hawking, avec des déficits de temps de plusieurs années. Des milliers de gens se firent prendre en cours de distranslation. Nombreux furent ceux qui moururent instantanément, les membres arrachés ou le corps sectionné. Quelques-uns se retrouvèrent de l'autre côté avec un bras ou une jambe en moins. Mais certains disparurent purement et simplement. Tel fut le sort du Stephen Hawking, exactement comme il avait été prévu. L'entrée et la sortie distrance furent expertement détruites dans la nanoseconde que dura la distranslation du vaisseau. Aucune partie du vaisseau-torche ne subsista dans l'espace réel. Plus tard, des études démontrèrent que l'engin appelé « bâton de la mort » s'était activé au milieu de ce qui tenait lieu d'espace-temps dans l'étrange géographie du technocentre entre les portes. Ces effets ne purent jamais être connus. Les effets sur le Retz et sur ses habitants, par contre, furent aussitôt évidents. Après 7 siècles d'existence, dont au moins 4 ou peu de citoyens purent vivre normalement sans elle, l'infosphère, y compris la pangermie et tous les canaux de communication et d'accès, cessa tout simplement d'être. Des centaines de milliers de citoyens perdirent alors la raison, plongés dans un état de catatonie profonde par la disparition de sens qui était devenu pour eux plus important que la vue ou l'ouïe. Des centaines de milliers d'opérateurs de l'infosphère, parmi lesquels plusieurs cyberpunks et cow-boys du système, disparurent également, leur personnalité analogique broyée dans l'effondrement de l'infosphère ou leur cerveau brûlé par la surcharge de dérivation neurale et par un effet connu plus tard sous le nom de rétroaction double zéro. Des millions de personnes moururent dans des endroits accessibles uniquement par porte distance, qui devinrent subitement pour eux des pièges mortels. L'évêque de l'église de l'expiation finale, le chef du culte Grichtek, s'était soigneusement ménagé, pour assister au jour de la fin, un abri confortable et abondamment pourvu en biens matériels au centre d'une montagne de la chaîne du Corbeau, dans l'hémisphère nord de Nevermore. Les portes distrance étaient le seul moyen d'y entrer et d'en sortir. Il y mourut peu de temps après les quelques milliers d'acolytes, assesseurs et huissiers qui essayaient, avec leurs ongles, de forcer la porte du sanctuaire où il s'était enfermé pour partager les derniers mètres cubes d'air avec son éminence. La richissime éditrice Tirena Wingreyfaith, âgée de 97 années standard, mais en piste depuis plus de 300 ans grâce au miracle des traitements Poulsen et de la cryogénie, avait commis l'erreur de vouloir passer cette journée fatidique dans son bureau, accessible uniquement par distrance et situé au 435e étage de la spire transverse, dans le secteur de Babel de la cité 5 de Tossetti Central. Après avoir refusé pendant 15 heures de croire que le service distrance était interrompu pour un bon moment, elle céda aux exhortations de ses employés et annula le champ de confinement qui l'isolait de l'extérieur par la façade pour permettre à un VEM de venir la chercher.
mais elle n'avait pas prêté suffisamment d'attention aux instructions qui lui étaient données. L'explosion due à la décompression brutale la fit jaillir du haut du 435e étage comme le bouchon d'une bouteille de champagne trop rudement secouée. Les employés et les membres des équipes de sauvetage qui attendaient à bord du VEM jurèrent par la suite que la vieille dame n'avait pas cessé de jurer comme un charretier pendant les 4 minutes que dura sa chute. Sur la plupart des mondes, le mot « chaos » avait acquis une nouvelle dimension. La majeure partie de l'économie du RETS disparut avec l'infosphère locale et la mégasphère. Des millions de marques durement ou illicitement gagnées s'évanouirent en fumée. Les cartes universelles cessèrent d'être reconnues. Toute la machinerie de la vie quotidienne s'arrêta en crachotant. Durant les semaines, les mois ou les années à venir, selon la planète, il serait impossible de payer les achats quotidiens, les déplacements dans les transports en commun, les dettes personnelles ou les services les plus simples sans avoir recours aux billets et aux pièces du marché parallèle. Mais pour la plupart des gens, la dépression qui s'abattait sur le RETS comme une tornade n'était qu'un détail mineur sur lequel on pourrait se pencher plus tard. Les préoccupations des familles étaient beaucoup plus personnelles et immédiates. Papa ou maman, par exemple, avaient quitté Denebvir pour aller travailler comme d'habitude sur Renaissance 5. Mais au lieu de rentrer le soir à la maison avec une heure de retard, il lui faudrait maintenant 11 ans et encore à condition de trouver immédiatement de la place à bord de l'un des rares vaisseaux de spin Hawking qui faisait le voyage interstellaire traditionnel. Les membres des familles aisées qui écoutaient le discours de Gladstone dans leur élégante résidence multiplanétaire eurent à peine le temps de se regarder d'une pièce à l'autre à travers les portes qui séparaient les différentes sections de leur maison multiplanétaire. Une seconde plus tard, ils étaient éloignés les uns des autres de plusieurs années-lumière et la porte d'Istrance ne s'ouvrait plus sur rien. Des enfants qui étaient à quelques minutes de chez eux, à l'école, à la crèche, au stade ou au jardin, ne reverraient plus leurs parents avant d'atteindre l'âge adulte. Le quartier marchand, déjà touché par le souffle de la guerre, fut tout d'un coup précipité dans l'oubli, et sa superbe ceinture de boutiques de luxe et de restaurants prestigieux fut tronçonnée en segments d'un clinquant pathétique qui ne devait plus jamais être réuni. Le fleuve Tétis cessa de couler au moment où les portes géantes devinrent opaques et disparurent. L'eau se répandait, s'évapora, et laissa mourir les poissons sous 200 soleils différents. Il y eut des émeutes. L'usus se déchira comme un loup dévorant ses propres entrailles. La nouvelle Mecque connut les spasmes du martyr. Tsingtao Sichuangpana, après avoir célébré la libération des hordes extro, pendit haut et court plusieurs milliers d'anciens bureaucrates de l'hégémonie. Alliance Maui connut également des déchaînements, mais de liesse. Les centaines de milliers de descendants des premières familles envahirent les îles mobiles pour en chasser les étrangers qui avaient pris le contrôle d'une si grande partie de leur planète. Plus tard, des millions de propriétaires de résidences de vacances qui ne savaient plus ce qui leur arrivait furent mis au travail pour les démanteler sur les milliers de stations pétrolières et de centres touristiques qui avaient poussé comme des verrues dans tout l'archipel équatorial. Sur le vecteur Renaissance, il y eut une brève flambée de violence, suivie d'une restructuration sociale efficace et d'un sérieux effort pour parvenir à nourrir un monde essentiellement urbain qui n'avait pratiquement pas de production agricole. Sur Nordholm, les villes se vidèrent peu à peu, tandis que leurs occupants retournaient sur la côte et sur l'océan froid à bord de leurs barques de pêche ancestrales. Sur Parvati régnèrent la guerre civile et la confusion. Sur Sol Draconi Septem triomphèrent l'allégresse, suivie de la révolution, suivie d'une recrudescence des maladies à rétrovirus. Sur Fuji, la résignation philosophique n'empêcha pas la construction immédiate de plusieurs chantiers orbitaux dédié à la création d'une flotte marchande de vaisseaux de spin à propulsion Hawking. Sur Asquith, il y eut une brève chasse aux sorcières, suivie par la victoire du Parti des travailleurs socialistes au Parlement mondial. sur Passem, les prières succédèrent aux prières. Le nouveau pape, sa sainteté Téliard Ier, convoqua un grand concile appelé Vatican XXXIX, annonça l'avènement d'une ère nouvelle dans la vie de l'Église et conféra au concile le pouvoir de former des missionnaires pour de longs voyages. Beaucoup de missionnaires et beaucoup de voyages. Le pape Téliard déclara également que ces missionnaires ne seraient pas chargés de répandre le prosélytisme, mais qu'ils seraient avant tout des chercheurs. L'Église, comme tant d'espèces habituées à vivre au bord de l'extinction, endurait et s'adaptait. Sur Tempe, on assista à des émeutes, à des massacres et à l'avènement des démagogues. Sur Mars, le commandement militaire d'Olympus demeura quelque temps en contact Mégatrans avec ses forces éparpillées. Ce fut Olympus qui confirma que les vagues d'invasion extra, partout sauf dans le système d'Hyperion, avaient simplement cessé d'être. Les vaisseaux du centre, interceptés, étaient vides et non programmés. L'invasion avait pris fin. Sur Metaxas, il y eut des émeutes suivies de représailles. Sur Comriyad, un ayatollah intégriste chiite, autopromu et surgi du désert, rallia 100 000 partisans et balaya en l'espace de quelques heures le conseil intérieur sunnite qui gouvernait la planète. Le nouveau gouvernement révolutionnaire restitua le pouvoir aux mollahs, reculant les montres de 2000 ans. La foule manifesta sa joie par des émeutes. Sur Armagast, située à la périphérie de l'ancien Retz, les choses ne changèrent pas tellement, à l'exception du manque de touristes, d'archéologues en herbe et autres produits de luxe importés. Armagast faisait partie des planètes labyrinthiennes. Mais ces labyrinthes étaient restés vides. Sur Hébron, ce fut la panique dans le quartier cosmopolite du centre de la Nouvelle Jérusalem. Mais les sionistes anciens remirent vite de l'ordre dans la ville et sur la planète. Des dispositions furent prises. Les produits d'importation de première nécessité furent rationnés. Le désert fut ensemencé. Les fermes se développèrent. On planta des arbres. Les gens se plaignirent les uns aux autres, remercièrent Dieu de les avoir délivrés, discutèrent avec lui de l'amertume de cette délivrance, puis retournèrent à leurs activités. Sur le bosquet de Dieu, des continents entiers brûlaient encore, et le ciel était recouvert d'un épais manteau de fumée. Peu après le passage de l'essaim, des dizaines de vaisseaux-arbres prirent leur essor au milieu des nuages, poussés par leurs propulseurs à fusion et abrités par leurs champs de confinement générés par des ergues. Une fois passé le puits gravifique, la plupart de ces vaisseaux-arbres choisirent des directions différentes le long du plan galactique de l'écliptique et entamèrent la longue giration préalable au saut quantique. Des salves mégatrans partirent en direction des essaims en attente. Le réensemencement avait commencé. Sur Tau Ceti Central, le siège du pouvoir, de la richesse, des affaires et du gouvernement, les survivants affamés quittèrent les spires devenues dangereuses, les cités désormais inutiles et les habitants en orbite qui ne servaient plus à rien pour aller à la recherche de quelqu'un qu'ils puissent accuser, quelqu'un qu'ils puissent punir pour tout leur malheur. Ils n'eurent pas à aller bien loin. Le général Van Zeit s'était trouvé dans la maison du gouvernement au moment où les portes avaient cessé de fonctionner. Il était maintenant à la tête de 200 marines et des 68 membres de la sécurité qui restaient pour garder le complexe. L'ex-présidente Meina Gladstone commandait toujours la garde prétorienne de 6 hommes que Kolchev lui avait laissés quand il avait été évacué, avec les autres sénateurs les plus importants, sur le premier et le dernier vaisseau de descente de la force qui avait pu passer. La foule, d'une manière ou d'une autre, s'était procuré des missiles et des lasers spatiaux, et aucun des 3000 autres employés de la maison du gouvernement n'irait nulle part tant que le siège ne serait pas levé ou que les défenses ne tomberaient pas. Gladstone, du poste d'observation avancé où elle se tenait, contemplait le massacre. La foule déchaînée avait saccagé la plus grande partie du parc Odin et des jardins à la française, avant d'être arrêté par les lignes d'interdiction et les champs de confinement. Il y avait là au moins 3 millions d'individus en colère qui se pressaient contre les barrières, et leur nombre augmentait à chaque minute.
Pouvez-vous supprimer les champs d'interdiction et les rétablir 50 mètres en arrière, avant que la foule ne puisse parcourir la distance ?
Demanda Gladstone au général. La fumée des villes en train de brûler à l'ouest remplissait le ciel. Des milliers d'hommes et de femmes avaient été écrasés contre le champ de confinement miroitant par la pression de la foule. Sur 2 mètres à partir de la base, le mur d'énergie semblait avoir été badigeonné avec de la confiture de fraises. Des dizaines de milliers d'autres malheureux étaient plaqués contre la barrière malgré la douleur permanente qui devait leur ronger les nerfs et les os.
« C'est faisable, H. Présidente, » répondit Van Zeit. « Mais pour quelle raison ?»«
Je vais sortir leur parler. »
La voix de Gladstone semblait au bord de l'épuisement. Le marine la regarda comme si elle avait voulu faire une mauvaise plaisanterie.
« H. Présidente, dans un mois, ils seront tous prêts à écouter vos paroles, ou celles de n'importe lequel d'entre nous, à la radio, à la TVHD. Dans un an, peut-être deux, lorsque l'ordre aura été rétabli et que chacun disposera de rations suffisantes, ils vous pardonneront peut-être. Mais il leur faudra au moins une génération pour comprendre ce que vous avez fait pour eux, pour comprendre que vous nous avez tous sauvés.
« Je veux leur parler »,
répéta Mayna Gladstone.
« J'ai quelque chose à leur donner. »
Van Zeit secoua la tête et se tourna vers le petit cercle des officiers de la force qui observaient la foule à travers les meurtrières du bunker, et qui regardait maintenant Gladstone avec la même expression d'incrédulité et d'horreur.
« Il faut que je consulte le président Kolchev, » murmura Van Zeit.
« Non, »
fit Mayna Gladstone avec lassitude.
« Il règne sur un empire qui n'existe plus. Je gouverne toujours le monde que j'ai détruit. »
Elle fit un signe de tête à sa garde prétorienne et des bâtons de la mort sortirent des uniformes à rayures noires et orangées. Aucun officier de la force ne bougea. Le général Van Zeit prit une voix suppliante pour dire « Le prochain vaisseau d'évacuation réussira à passer, Mayna !» Elle hocha la tête comme si elle avait perdu la raison.
« Dans les jardins intérieurs, ce serait le mieux. » La foule ne saura plus ce qui se passe pendant quelques instants. La disparition de l'enceinte extérieure va la déséquilibrer.
Elle regarda autour d'elle comme si elle avait peur d'oublier quelque chose, puis tendit la main à Van Zeit.
Adieu, Marc. Merci. Occupez-vous des miens, s'il vous plaît.
Van Zeit lui serra la main et la regarda resserrer son foulard et toucher distraitement son bracelet persoc, comme pour qu'il lui porte chance. Elle sortit alors, accompagnée de 4 de ses prétoriens. Le petit groupe traversa les jardins piétinés et se dirigea lentement vers les champs de confinement. La foule, de l'autre côté, sembla réagir comme un organisme unique privé de cervelle. Elle se pressa contre le mur d'interdiction pourpre en hurlant avec la voix d'un monstre fou. Gladstone se tourna vers ses 4 gardes, leva la main comme pour leur dire adieu, et leur fit signe de s'en aller. Ils retournèrent sur leurs pas en courant.
« Allez-y !»
fit le plus ancien des prétoriens resté dans le bunker en pointant son bâton de la mort vers la commande à distance du champ de confinement.
« Allez vous faire foutre !» articula Van Zeit.
Lui vivant, personne ne s'approcherait de ce tableau de commande. Il avait oublié que Gladstone avait toujours accès au code et aux liaisons tactiques sur faisceau étroit. Il la vit lever son persoc, mais ne réagit pas assez vite. Les voyants du tableau de télécommande devinrent rouges, puis verts. Les champs de confinement se désactivèrent pour se reformer 50 mètres en arrière. L'espace d'une seconde, Mayna Gladstone se trouva seule face à ces millions de gens en colère, séparée d'eux uniquement par quelques mètres de pelouse et d'innombrables cadavres soudain rendus aux lois de la pesanteur par la disparition des murs d'énergie. Gladstone leva les deux bras comme pour étreindre la foule. Le silence et l'immobilité se prolongèrent durant trois interminables secondes. Puis un rugissement de bête fauve s'éleva et des milliers de bras se tendirent, armés de bâtons, de cailloux, de couteaux et de goulots de bouteilles. Un instant, Van Zeit eut l'impression que Gladstone se tenait comme un roc invincible au milieu de la vague humaine qui déferlait sur elle. Il voyait son tailleur foncé et son écharpe brillante, ses bras encore dressés. Mais la vague continua de se refermer sur elle, et il la perdit de vue. Les gardes prétoriens abaissèrent leurs armes et furent immédiatement mis aux arrêts par les marines.
« Opacifiez les champs de confinement, » ordonna Van Zeit.
« Dites au vaisseau de descente de se poser dans les jardins intérieurs, par intervalle de 5 minutes.
« Dépêchez-vous !»
Il détourna les yeux.
« Bon Dieu !»
s'exclama Théo Lane, tandis que les informations continuaient d'arriver par fragments sur le système Mégatrans. Il y avait tant de salves simultanées, de l'ordre de la milliseconde, que l'ordinateur avait de la peine à les séparer. Le résultat confiné au désordre et à la folie.
Repasser la destruction de la sphère de confinement de singularité, demanda le consul.
Bien, monsieur.
Le vaisseau interrompit ses messages Mégatrans pour repasser l'image du soudain éclat blanc, suivi d'une brève explosion de débris, puis de l'affaissement de la singularité qui se dévora elle-même et dévora tout ce qui se trouvait dans un rayon de 6 000 km. Les instruments montrèrent les effets des courants de gravité, faciles à cerner à cette distance, mais qui firent des ravages parmi les vaisseaux de l'hégémonie et les bâtiments extro qui s'affrontaient encore dans la région d'Hyperion.
« Très bien, » fit le consul.
Les messages Mégatrans continuèrent de défiler.
« Il n'y a aucun doute possible ?»
demanda Melio Arundez.
« Aucun, » lui dit le consul. Hyperion est redevenu un monde des confins, mais il n'y a plus de Retz pour définir les confins.
C'est vraiment difficile à croire, fit Théo Lane.
L'ex-gouverneur général était assis dans un fauteuil, en train de boire un scotch. C'était la première fois que le consul voyait son ex-adjoint avoir recours à l'alcool. Théo se versa encore 4 doigts avant de murmurer.
Plus de Retz ? 500 ans d'expansion, balayé d'un seul coup.
Mais il ne faut pas dire cela, fit le consul en posant son verre, encore à moitié plein, sur la table. Nos mondes sont toujours là. Des cultures séparées se développeront, mais nous aurons toujours la propulsion Hawking, la seule technologie avancée que nous nous soyons donnée, au lieu de l'emprunter au technocentre.
Melio Arundez se pencha en avant, les mains jointes comme pour prier.
« Vous croyez que le centre a vraiment disparu ? Qu'il a vraiment été détruit ?»
Le consul écouta quelques instants le brouhaha des voix, des cris, des supplications, des rapports militaires et des appels au secours qui venaient des canaux audio.
« Complètement détruit, peut-être pas, » dit-il. Mais isolé, certainement.
Théo acheva son verre et le posa avec précaution. Ses yeux verts avaient pris une expression placide, presque vitreuse.
Vous croyez qu'il y a d'autres toiles d'araignée qu'il pourrait utiliser? D'autres systèmes d'istrans? Des technocentres de rechange?
Le consul fit un geste vague.
« Nous savons que le technocentre a réussi à créer son intelligence ultime. C'est peut-être cette IU qui a rendu possible ce nettoyage du centre. Qui sait si elle ne garde pas pour elle quelques IA en activité réduite, un peu comme les quelques milliards d'humains diminués que le centre avait prévu d'exploiter à ses propres fins ?»
Soudain, le babillage Mégatrans s'interrompit, comme tranché par une lame.
« Pilote ?»
demanda le consul qui soupçonnait une panne de système.
« Tous les messages Mégatrans ont cessé, pour la plupart en cours de transmission, » répondit le vaisseau.
Le consul sentit son cœur bondir tandis qu'il pensait au bâton de la mort. mais il était impossible que tous les mondes soient touchés en même temps. Même si des centaines d'engins s'activaient au même moment, il y aurait nécessairement un déphasage dû au fait que les vaisseaux de la Force et les autres sources de transmission éloignées ne pouvaient pas cesser toutes les émissions en même temps. Que s'était-il passé alors?
Les messages semblent avoir été coupés par une défaillance du support de transmission lui-même, déclara le vaisseau. Ce qui est, à ma connaissance, impossible.
Le consul se leva. Une défaillance du support de transmission. Le support Mégatrans, tel que les humains le comprenaient, du moins, était constitué par la topographie même de l'espace-temps de Planck, avec ses hypercordes infinies. Ce que les IA désignaient mystérieusement sous le nom d'espace qui lie. Un tel support ne pouvait pas connaître de défaillance. Soudain, le vaisseau annonça.
Message Mégatrans en cours de transmission. Source, partout. Base cryptographique, infinie. Fréquence de salve, temps réel.
Le consul ouvrait la bouche pour dire au vaisseau de cesser de débiter des absurdités, lorsque l'air au-dessus de la fosse holo s'embruma, laissant transparaître quelque chose qui n'était ni une image, ni une colonne de données. Une voix se fit entendre.
« Il ne devra plus y avoir de nouvelle utilisation abusive de ce canal. Vous gênez ceux qui l'utilisent pour des motifs sérieux. L'autorisation d'accès vous sera restituée quand vous aurez compris à quoi il sert. Salutations. »
Les trois hommes demeurèrent dans un silence que seul rompait le bourdonnement rassurant d'un ventilateur et les multiples bruits d'un vaisseau en marche. Finalement, le consul déclara.
Pilote, veuillez transmettre une salve Mégatrans standard d'identification spatio-temporelle non cryptée. Ajoutez la mention « Prière à toutes les stations réceptrices de répondre ».
Il y eut une pause de plusieurs secondes, étonnante pour un ordinateur de classe quasi-IA comme celui du bord.
« Je regrette, mais c'est impossible », déclara finalement la voix du vaisseau.
« Et pourquoi ?» demanda le consul.
« Les transmissions Mégatrans ne sont plus autorisées. Le support hypercorde n'est plus réceptif à la modulation. » « Il n'y a rien sur Mégatrans ?» demanda Théo.
Il contemplait l'espace vide au-dessus de la fosse holo, comme si quelqu'un avait interrompu un holofilm au moment le plus intéressant. De nouveau, le vaisseau sembla marquer un temps de réflexion.
« En tout état de cause, Ashlain, nous ne savons même plus si le système Mégatrans existe encore ou non. »
Jésus a versé des larmes, murmura le consul.
Il acheva son verre d'un seul coup et se leva pour aller jusqu'au bar sans servir un autre.
C'est la vieille malédiction chinoise, grommela-t-il.
Vous disiez ?
Demanda Melio Arundez en relevant la tête. Le consul but une longue rasade.
Vieille malédiction chinoise, répéta-t-il. Puissiez-vous vivre dans des temps intéressants.
Comme pour compenser la perte du Mégatrans, le vaisseau passa sur le canal audio du récepteur et intercepta un babillage sur faisceau étroit au moment où il projetait une vue en temps réel de la sphère bleue et blanc d'Hyperion qui tournait et grossissait tandis qu'il descendait vers elle sous 200 gravités de décélération.